la parole de Dieu que nous allons devoir partager avec cet auditoire est ainsi libellée. Disciples du Christ, tenez ferme, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Disciples du Christ, tenez ferme, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Ce thème ainsi libellé nous présente une situation. Et cette situation n'est autre que une situation d'une guerre déclarée. Une guerre qui est déclarée. Nous tous qui sommes disciples, nous sommes appelés à nous tenir fermes et que nous puissions prendre toutes les armes avec lesquelles nous avons un ennemi à combattre. Cependant, sachez une chose, c'est que il ne faudrait pas que nous soyons distraits. Il ne faut pas que nous soyons distraits parce que nous tous, nous le savons, que à la croix du calvaire, Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu le diable. Et nous déclarons que Satan, c'est un ennemi vaincu. Il a été déchu. Il a connu une très grande défaite. Mais cependant, nous devons prendre au sérieux le combat que le diable mène auprès de nous et cela au quotidien. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention sur quelques faits. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, veillez, 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 veillez. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Si vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 12, la parole de Dieu déclare, Éphésiens chapitre 10, au verset 12, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 10, plutôt 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et aussi, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens, plutôt dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, la parole de Dieu déclare, et c'est Jésus qui le dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Est faible. Si nous sommes ainsi prévenus, nous devions nous comporter en conséquence. C'est pourquoi je voudrais que vous sachiez avec moi que il y a quelques stratégies que le diable mène pour que nous ne puissions pas continuer à croire que nous l'avons déjà vaincu. Parmi ces stratégies, nous examinons seulement celles qui sont axées sur les différentes bases arrière des valeurs sociales et des valeurs spirituelles et de l'annonce de l'évangile de paix. Parmi ces bases arrière, nous citons, primo, la parole de Dieu, deuxièmement, la prière, et troisièmement, l'obéissance à l'ordre suprême. Le diable, sachant que nous qui sommes disciples, nous sommes déjà outillés, nous sommes armés pour pouvoir le combattre, mais il utilise certaines stratégies pour qu'il puisse avilir l'œuvre de Dieu. Le diable, dans ses stratégies, il permet que nous ayons la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Mais quand il me voit, moi comme disciple, quand il vous voit, vous comme disciple, il dit, cela ne fait rien, cela ne lui dit rien.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il combat votre heure de la lecture de la Bible. Il attaque sérieusement l'heure de l'étude de la Bible. Il veut que vous ayez continuellement la Bible entre vos mains, mais quant à lire d'une manière quotidienne, quant à étudier la parole de Dieu d'une manière régulière, ça, il étouffe. Il étouffe les heures de la lecture et de l'étude biblique. Il suscite chez vous l'oubli de la parole de Dieu. Il vous multiplie les multiples occupations pendant le moment favorable pour la lecture et l'étude de la Bible. Pourquoi? Puisqu'il sait que si vous êtes outillé suffisamment, et alors vous allez devoir éteindre toutes les flammes enflammées contre lui. Mais aussi, il sait que si du moins vous faites régulièrement la lecture et l'étude de la parole, vous allez réellement grandir. Vous allez devenir adulte en Jésus-Christ et vous serez un beau combattant de ses œuvres. Et alors sur ce, qu'est-ce qu'il va devoir développer comme stratégie? Il dit, lisez la parole, mais ne la mettez pas en pratique. Lisez la parole, mais ne la mettez jamais en pratique. Et alors il sait que tout en lisant la parole, sans pour autant la mettre en pratique, nous devenons des simples nains spirituels. Nous continuons à rester des nains spirituels. Nous continuons à demeurer des hommes charnels. Nous continuons à demeurer des chrétiens charnels. Et ce sont ceux-là que l'apôtre Paul appelle des enfants, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe lorsque nous demeurons des nains spirituels, lorsque nous ne grandissons pas, selon le psaume 1er, du 1er au 6e verset, qu'est-ce que nous allons devoir constater? Nous allons demeurer des disciples sans succès. L'insuccès ou l'échec dans la vie sera multiforme. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu qui devait nous donner le succès dans notre vie et cela dans les différentes dimensions de notre vie, qu'est-ce que l'on va constater? Il y a échec. Puisqu'en fait, la parole de Dieu que nous lisons et que nous mettons en pratique, c'est la clé de la réussite dans tout ce que nous allons devoir entreprendre. C'est une promesse divine. S'agissant de la prière, Satan s'attaque à la prière pour qu'il puisse rendre vile la vie du disciple, pour qu'il puisse rendre la vie du disciple incompétente. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe l'heure de la prière. Et cela sous toutes les formes. Le moment que vous avez choisi pour pouvoir prier, c'est le moment pendant lequel vous avez multiples occupations. Le moment que vous avez choisi comme moment de prière, moment de communiquer avec Dieu, c'est un moment qui, en fait, le diable va susciter l'esprit de haïr ce temps-là. Et même, il va susciter dans le milieu l'esprit de faire haïr ce moment-là de prière que vous avez. Ça peut être dans l'église ou pour vous d'une manière personnelle. Et cela fait que la vie de prière, la vie du disciple ne devienne pas une vie florissante, une vie épanouie. Mais aussi, il y a l'obéissance à l'ordre suprême. Que le diable étouffe sous toutes les formes. Que le diable combat sous toutes les formes. Et c'est là pourquoi? Pour que l'évangile ne soit pas annoncé pour le salut de l'humanité. Pour que la parole de Dieu ne soit pas proclamée telle que le commande notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme conséquence, qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce qu'il réalise? Il fait tout simplement laisser plonger les disciples dans le formalisme. Il fait plonger les disciples dans le formalisme. Si je parle de formalisme, c'est dire qu'on peut tracer un très beau programme. On peut avoir une très bonne documentation. On peut avoir tout ce qu'on peut avoir pour évangéliser. Mais on va seulement s'arrêter sur l'activisme. Le diable va susciter l'oisiveté. Le diable va susciter l'inertie évangélique. Le diable va susciter une grande léthargie évangélique. Autrement dit, l'Église va rester dans une désobéissance totale à l'ordre suprême que Jésus-Christ avait confié à l'Église. La question est, ne suis-je pas en train d'être manipulé par le diable pour que je sois un disciple de nous, pour que je puisse grandir, pour que je puisse devenir adulte en Jésus-Christ? Quel est le moment précis dans mon agenda, d'une manière hebdomadaire ou d'une manière quotidienne, le moment où je réalise que ce moment, c'est le moment de la lecture d'une manière personnelle de la parole de Dieu, pour que je puisse réellement grandir et devenir adulte en Jésus-Christ? Chacun peut aussi réaliser quel est le moment qu'il a choisi d'une manière libre comme moment de prière pour que, comme Christ l'avait dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment ? Est faible. Quel est le moment que j'ai choisi d'une manière personnelle, au quotidien, d'une manière hebdomadaire ou mensuelle, pour que j'ai une rencontre personnelle avec mon Seigneur, et c'est là dans la prière. Mais aussi, le diable n'a-t-il pas anéanti ou ne m'a-t-il pas rendu désobéissant à l'ordre suprême? Puisque le diable sait que si l'évangélisation est pragmatique, si l'évangélisation est réellement bien planifiée, si l'évangélisation devient stratégique, et alors le monde sous son empire est en danger. Le monde sous son empire sera pillé. Et alors sur ce, il réalise qu'il ne peut que développer chez vous l'entêtement, la désobéissance outrée, pour ne pas aller comme il l'avait commandé. Et alors, là, on devient, à quelque sorte, des disciples, mais plongés dans ce que nous appelons l'inertie. Nous devenons comme des perroquets, c'est-à-dire, nous pouvons chanter « Nita kwendana ye mokozi, nitangaze » alors que nous restons sur place. Et ça devient un problème. Mais alors, eu égard à cela, nous nous disons, la parole de Dieu nous convient. Dieu, dans sa parole, ce matin, nous convient. Étant donné que nous avons affaire à un combat purement spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons une armure qu'il faut posséder. Et cette armure-là, si nous la possédons et que nous puissions la mettre en pratique, si nous pouvons l'utiliser, c'est là que l'Esprit de Dieu nous conduira de l'utiliser, et alors nous deviendrons des disciples qui contribueront à l'expansion rapide de l'œuvre du Christ dans ce monde. Et c'est pourquoi nous allons énumérer certaines armes spirituelles qui sont requises pour chacun d'entre nous, pour que d'une manière quotidienne, nous menions non seulement une vie victorieuse sur le diable de notre ennemi, mais aussi que nous puissions participer à l'expansion rapide de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Parmi les différentes armes qui sont citées dans le texte que nous avons lu, au verset 14 dans Éphésiens chapitre 6, nous trouvons la vérité et il est dit la vérité pour ceinture. Nous devions comprendre que quand nous parlons de la vérité ici, dans ce passage, il faudrait comprendre cette vérité comme étant un engagement personnel à être fidèle à mon maître Jésus-Christ. Si je m'engage à être sincère à mon maître Jésus-Christ, et alors je vais participer activement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puisque le contraire de la vérité, ce serait le mensonge. Et alors, si nous mentons auprès de Jésus-Christ pour dire que nous allons réaliser ce qu'il nous commande de faire, et alors, ce serait malheureux. Nous avons la ferme assurance que Dieu va m'aider. Christ vient à mon secours pour que je puisse m'engager comme Christ lui-même s'était engagé pour assumer son rôle qui lui a été confié par l'Éternel, de venir mourir à la croix du calvaire à ma place et à ta place. Si donc nous restons fidèles à notre engagement, à notre Seigneur Jésus-Christ, et si nous faisons ce qu'il nous est appelé à faire, qu'est-ce qui va arriver? L'œuvre que Christ nous a confiée ira de l'avant. S'agissant de la seconde arme, qui est la justice étant la cuirasse. Cuirasse, si on peut comprendre cela facilement, je peux dire que ce serait un gilet, mais qui couvre la poitrine, le thorax. Mais si on peut utiliser un langage vulgaire, nous dirions que ce serait un gilet blindé. Si on pouvait jeter ou lancer une cartouche à vous, à moi, et que nous soyons revêtus de cette cuirasse, la cartouche n'allait pas m'atteindre. Et alors, quand nous parlons de la justice, ici, la justice est à la qualité essentielle divine, est à une attribut de Dieu. Mener une vie juste conduit à mener une vie de sainteté. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sainteté sans application stricte de la parole de Dieu dans sa vie. C'est pour dire que nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, qui avons à combattre contre le diable, nous sommes appelés à mener une vie juste conforme à la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, nous mènerons une vie de sanctification. Une vie de sanctification sur laquelle, comme la parole atteste, personne ne verra le Seigneur. Nous, disciples, partout où nous sommes, nous allons donc lutter contre l'injustice, qui serait en quelque sorte le résultat de la non-obéissance à la parole de Dieu. Et alors, partout où nous sommes, il faudrait que la vie dans laquelle nous sommes engagés, une vie de fidélité, une vie de justice, une vie de mise en pratique la parole du Seigneur, l'obéissance à la parole du Seigneur, puisse nous aider à défendre ceux-là qui sont exploités par la justice injuste. Nous devrions donc être prêts à défendre ceux-là qui mènent une vie d'exploitation de l'homme, par manque de pratique de la justice. La parole de Dieu nous dit, et c'est là au verset 15, le zèle nous parle d'une troisième arme, et cette troisième arme n'est autre que le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Et ce zèle-là, dans la vie du disciple, est comparé à des chaussures. Le zèle que donne l'évangile de paix est consécutif à l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. L'amour de Dieu pour l'homme pécheur est manifesté à la croix du calvaire. car dans Romains au chapitre 8, le verset, Romains chapitre 5, à partir du verset 8, si vous, pour aller jusqu'au verset 10, la parole de Dieu nous dit que Dieu manifeste son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à la croix du calvaire. Christ a réconcilié le monde pécheur avec Dieu. Et alors, eu égard à l'amour que Dieu a manifesté à l'endroit de l'homme pécheur, ceci nous pousse, nous qui avons crié à Jésus-Christ, d'amener cette parole, cette bonne nouvelle à ceux-là continuent à vivre dans le péché pour qu'eux aussi soient sauvés comme nous. Nous tous qui reconnaissons l'œuvre que Dieu a accomplie à travers la mort de Christ à la croix pour nous pécheurs, et alors nous sommes zélés, nous sommes zélés pour pouvoir amener cette bonne nouvelle à l'homme et continuer à vivre dans le péché. La parole de Dieu nous dit, si nous restons confiants à l'Éternel, eu égard à l'amour qu'il a pour l'homme pécheur, et alors, veillons jour et nuit pour que nous puissions partager cet amour à ceux-là qui continuent à vivre dans le péché. Et c'est dans ce moment-là que nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous partons avec la petite Bible, Jean 3, 16, pour parler à ceux-là qui continuent à vivre dans le péché, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons nous empresser à apporter cette bonne nouvelle à ceux-là qui continuent à vivre dans le péché. Nous qui sommes disciples, si nous n'allons pas témoigner de cet amour de Dieu à l'endroit de l'homme pécheur, qui est celui qui le fera? C'est que nous serions encore sous le joug, ou nous serions encore envoûtés par l'ennemi de l'évangile, qui n'est autre que le diable. En fait, il y a l'arme, la quatrième arme, la foi, qui est le bouclier pour les disciples de Christ. Et c'est là au verset 16. La parole de Dieu nous dit, d'une manière simple, que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de qui? De Dieu. Et alors, nous qui sommes disciples, nous devons saisir la foi comme étant notre bouclier. Le bouclier étant un instrument pour éteindre toutes les attaques, plutôt toutes les balles visant notre être spirituel. Et alors le bouclier est là pour éteindre cela. Autrement dit, si nous saisissons ce que Christ avait fait dans Matthieu chapitre 4 du verset 1er jusqu'au verset 11, Jésus-Christ disait, s'adressa à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La foi vient de ce qu'on attend et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Et la foi n'est autre que notre confiance que nous avons placée d'une manière fondamentale en Dieu. C'est que nous avons, si nous avons confiance à Dieu, c'est en lui que nous nous attendons aussi. Puisqu'il reste le Dieu Tout-Puissant, même lors des attaques du diable sous toutes les formes, Dieu est là pour venir à notre secours. Mais aussi, il y a au verset 17, le salut, ou plus précisément, qui est le casque. Nous, comme disciples de Christ, nous avons une arme que nous devons utiliser, que nous devons sécuriser, c'est le salut. Comprenez une chose, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8 et 9, nous sommes sauvés par grâce. Et cela au moyen de quoi? De la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Il faudrait que nous comprenions, nous qui sommes disciples, que le monde dans lequel nous sommes, le diable essaie de nous présenter devant des situations ou nous présente des philosophies qui nous poussent à mettre en doute notre salut. Mais si nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est à la base de notre salut en nous, nous devions comprendre que si nous réalisons que nous avons reçu d'une manière consciente Christ à nous, comme la parole de Dieu le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous réalisons que réellement nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et alors il ne faudrait pas douter de notre salut. Il ne faudrait pas que vous doutiez ou que je doute. Même s'il peut y avoir plusieurs autres philosophies que vous avez suivies à travers vos études, dans des cours, entre autres, de philosophie, et qu'à partir des théories philosophiques, vous êtes arrivé à douter de votre salut, il faudrait reconnaître que la parole de Dieu nous rassure que nous qui avons reçu Christ, nous sommes alors sauvés et que nul ne va nous éloigner de Dieu et que nul ne va nous éloigner de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le diable chercherait à vous pousser à mettre en doute votre salut, et alors il y a lieu tout simplement de recourir à la parole. Et enfin, avant la fin, il y a la septième arme qui est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit ou la parole de Dieu. L'épée qui est utilisée par les militaires au combat. Mais nous, nous utilisons l'épée qui est la parole de Dieu dans le cadre non seulement de défendre notre foi, mais aussi d'attaquer Satan. Et alors, dans ce cas-là, l'épée de l'esprit joue non seulement un rôle offensif, mais aussi un rôle défensif. Offensif, lorsque nous contrecarrons les plans de l'ennemi, le diable, mais aussi défensif, lorsque nous repoussons les attaques de l'ennemi. Comprenons que la parole de Dieu, lorsque nous l'utilisons lors d'une campagne d'évangélisation, nous serions en train de jouer un rôle purement défensif. Nous serions en train de repousser Satan. Nous serions en train de piller le camp de Satan. Et la parole de Dieu nous convainc que cette arme est une arme qui est tout à fait puissante. Mais aussi, la dernière arme, c'est la prière. La prière, et c'est là au verset 19 et 20, je voudrais vite rappeler que l'apôtre Paul sollicite une chose. Lui, en tant que serviteur de Dieu, il demande qu'on puisse prier, non seulement pour lui, mais aussi qu'on puisse prier pour tous les saints. C'est parce qu'il a compris une chose, c'est que la prière, c'est une arme. Une prière, ça reste une arme efficace pour pouvoir déjouer les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul recommande que nous puissions prier en tout temps, il est question d'examiner dans notre vie, il faudrait que nous puissions examiner dans notre vie comment nous gérons notre temps. Comment gérons-nous le temps? Pendant combien de temps au quotidien cela est réservé à la prière pour que lorsque nous serions attaqués par le diable, nous puissions être victorieux, nous puissions être vainqueurs, mais aussi que là où l'œuvre de Dieu est organisée, est entreprise, quelles difficultés que Satan chercherait à créer ou à susciter, que toutes ces difficultés-là soient écartées par la toute-puissance de Dieu. Nous voulons conclure en disant ceci. Dieu nous appelle ce matin à une vie victorieuse. en route vers la cité céleste. Une vie victorieuse sur toutes les attaques du diable. Que nous ne soyons pas envoûtés par le diable. Que nous ne soyons pas vaincus par le diable. Que nous ne puissions pas tomber. Pour que cela n'arrive pas, comprenons une fois de plus comment nous réalisons l'état de l'entretien de la lecture de la parole de Dieu dans notre vie. Puisque c'est là la base que le diable exploite, vise pour éradiquer dans votre vie. Essayez d'examiner comment nous sommes en train d'entretenir la vie de prière. Voyons comment nous sommes en train de répondre à l'ordre missionnaire, l'ordre donné par Jésus-Christ. Ces trois éléments principaux sont la cible privilégiée de l'attaque du diable dans la vie du disciple. Il veut paralyser le temps de prière, il veut paralyser le temps de la lecture de la parole de Dieu, il veut paralyser votre action de témoignage de Christ à ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Alors, voyons comment cette situation se présente dans nos vies respectives, dans nos vies individuelles. Si nous réalisons que ce temps-là de prière et la lecture de la parole sont étouffés, et alors il y a lieu que je demande à Dieu ce jour de me pardonner. Rappelez-vous, Jésus-Christ s'adressa à Pierre dans Luc au chapitre 22 au verset 31. Il lui avait dit, je cite, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Aujourd'hui, membre de la paroisse de la 3e SEC, Sebseya, Goma Ouest, fille comme garçon, papa ou maman, enfant, jeune, fille ou garçon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Ce qu'il veut, c'est que vous n'ayez jamais été alloué à la prière, à l'étude biblique, mais aussi à l'annonce de l'évangile. Puisqu'il sait que si ces trois éléments sont réunis, et alors son camp, son empire est en danger. C'est la mission que Christ a confiée à l'Église. Alors lorsqu'il paralyse ces éléments, il réalise que l'Église n'avancera plus comme il le faut. L'Église sera en quelque sorte paralysée. L'Église sera en quelque sorte en état d'inertie. Et alors, nous devons faire attention si nous pouvons recommencer à zéro et prendre un engagement sincère avec Christ pour dire, Seigneur, je te demande de me venir au secours pour qu'à partir de ce 31 janvier 2021, je puisse avoir une rencontre personnelle avec toi pour que je puisse avoir la victoire sur toutes les tentations du diable. Et que pendant les jours mauvais, les jours difficiles, les jours d'épreuve, je puisse avoir la victoire et que je puisse voir la main de Dieu puissante agir pour changer la situation. Dieu est prêt à me venir au secours. Dieu est prêt à te venir au secours pour que, au cours de cette année civile 2021, on puisse voir la paroisse francophone de la 3e CBK Goma Ouest soit vivante, une paroisse constituée par de jeunes filles, de jeunes garçons, des papas, des mamans, qui sont mûrs, qui sont adultes en Jésus-Christ, des papas qui prient, des papas qui lisent la parole et la vivent, mais aussi des papas qui sont partout où ils sont ambassadeurs de Christ, annonçant Christ qui sauve à tous ceux-là à qui Christ leur a demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et ces nations-là ne sont autres que les gens qui sont derrière vous, de votre famille, de votre tribu, de votre auditoire, si vous êtes élève, si vous êtes étudiant, de votre carrière professionnelle, les gens avec qui vous vivez, Christ veut que tout cela puisse être sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole.